Sans contrôle, le podcast 100% excellente.
Loco Pelleros, Pelleros Loco, c'est fabuleux.
Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
Autour de la table... Loïc Folio, Ouest France. David Filippo, Ouest France.
Lo que tú sientes se llama obsession.
Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France, un podcast présenté par Simon Rongoat, It West.
Salut les amis, salut Loïc Folio.
Salut.
Il avait des étoiles dans les yeux, Loïc, dimanche, après cet autographe obtenu de son idole, le lyonnais Rémi Vercoutre, dans les coulisses de la Beaujoire. On raconte tout.
Ce qui m'a particulièrement ému, c'est de voir le délégué, l'un des délégués à la fin du match, avec sa belle veste de la LFP, prendre un selfie avec Corentin Tolisso.
Et ça, t'as aimé.
Ah, j'ai adoré.
Tu l'aimes, le Corentin. Salut Pierre Arnaud Barre.
Salut Simon, bonjour tout le monde.
Pape surnommé le Twittos fou sur tous les sujets. Il tweet, stade désespérément vide, la compo avant match, et puis le meilleur. Un tweet sur le quart du FC Nantes qui fait une marche arrière dans les
incroyable.
Coulisses de la poche.
Bah, essaye de faire la même chose. Essaye de faire la même chose. Une marche arrière avec le quart et tout. C'était merveilleux.
C'était prémonitoire, hein, la marche arrière du FC Nantes sur la deuxième mi-temps des Canaries. Salut David Filippo.
Salut.
Du foot sans spectateurs, sans fumigène, soirée de rêve pour notre Vendéen à la Beaujoire. Tu nous raconteras ce bonheur tout à l'heure. On va
bien
en parler hein, avec Pierre Barthélémy. Salut Jean-Marcel Boudard.
Salut.
Pas de fumis pour Jean-Marcel en tribune de presse, il avait pourtant prévu d'en craquer un, mais il a été dénoncé par David et le match a pu se dérouler sans encombre. Pas de regret Jean-Marcel ? T'aurais bien aimé en craquer un ?
Ouais, ce qui m'embête plus c'est l'intervention de David que le fait de ne pas avoir pu craquer.
Ouais, ouais, c'est surtout qu'on a confisqué ta cagoule.
Allez, salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute.
Oh, Daou.
Ouais. Avec
pas Dani ?
Avec Dani. Dani,
boomerang.
Ah oui,
boomerang.
Comme un boomerang. Ah, oui. Comme un boomerang.
Gainsbourg.
Gainsbourg, bien sûr.
Ah, mais c'est vrai, mais c'est Daou.
Là, c'est l'original. Non, c'est
excusez-moi de préférer l'original à la reprise. Effectivement, Daou, Dani, d'accord. Mais Serge Gainsbourg, là, si vous écoutiez, c'est Jean-Marcel qui marque le premier point de la soirée. Les performances du FCN, c'est un peu.
Je suis chaud, ça.
Ouais, t'as l'air chaud,
moi.
T'as l'air chaud. Hein. Les performances du FCN, c'est un peu comme un boomerang. Tu les reprends toujours dans la tronche. C'est au programme, messieurs, de ce 32e épisode saison 5 de Sans Contrôle. Rechute pour le FCN face à Lyon, défaite 3-1 et des Nantais une nouvelle fois consistants en première mi-temps, mais cette fois dépassés après la pause. Comboiré a-t-il fait des changements trop tardifs? La défense est-elle en cause? L'arbitrage aussi, forcément, sur le coup de coude de la Lacazette. Ou pas. Il reste 6 matchs, tous décisifs, mais celui du Havre dimanche s'annonce importantissime. Le FC Nantes a-t-il quelques certitudes avant de se rendre en Normandie? Avec quel compo? On prend les mêmes et on recommence malgré la défaite? Le Havre est-il le concurrent du FCN avec Lorient pour éviter cette place de barragiste? Enfin, on parle huis clos, fumigène et commission de discipline de la Ligue avec l'avocat Pierre Barthélémy, spécialisé dans la défense des associations de supporters. C'est notre gros dossier du jour après la triste soirée de dimanche dernier. Allez messieurs, en bon journaliste, on affûte le sens critique pour nourrir le débat. L'idée, en gros, c'est de regarder comment fait Jacques Vendroux avec Valdemar, et puis bah, vous faites le contraire.
Eh hey, oh, faites pas la gueule. Vous êtes content quand même, non?
Hey, oh, let's go.
Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Les montagnes russes se poursuivent pour le FC Nantes. Une victoire à Nice, une défaite à Lyon, une bonne mi-temps contre les Gaunes, une autre moins convaincante.
Un coup c'est mal, un coup c'est bien, un coup c'est plus, un coup c'est moins, un coup tu pars, un coup tu reviens.
Non.
Avec toi c'est tout ou rien.
Ah, c'est un tiré hasard.
Tiré hasard.
Ah, je connais en la danse du Tchert, mais pas. Bah, ouais. C'est quoi celle-ci?
Un jour c'est oui.
Un jour c'est oui, un jour c'est Thierry Hazard. Loïc Folio, Jean-Marcel Boudard.
Non, ouais,
dansier là-dessus,
je m'incline que Pape Larchinou sur la voix, quoi.
Thierry Hazard, ouais, sur la voix. C'est le Djerk, c'est la voix du
Djerk.
On a donc vu un FCN à deux visages face à Lyon, consistant en première mi-temps, mais dépassé après la pause. Comment comprenez-vous ce match, Loïc? Est-ce que c'est un problème physique, un problème mental? Pourquoi on a ces deux visages nantais?
Physique, je ne pense pas. En revanche, j'ai encore le sentiment que cette équipe a un peu un mental en carton et qu'au moindre vent contraire, ben, elle s'effondre. On l'a encore vu hier. Hein. Elle maîtrise plutôt correctement son sujet, en tout cas son jeu en première période. Il y a l'histoire de Zézé qui prend rapidement son coup de coude. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, il faut aussi dire qu'elle a été dépassée par une équipe qui lui était supérieure.
Ce qui est marrant, c'est que c'est l'inverse de ce qu'on a dit il y a une semaine.
Ben oui, c'est
à ce
que j'allais dire, à Nice contre Nice.
À Nice, ils ont été hyper solides mentalement. Ils subissent l'égalisation niçoise et ils repartent tout de suite à l'attaque. Ils marquent, ils mettent le deuxième but. Et en fait, ce que tu disais, le côté boomerang et un jour c'est oui, un jour c'est non, c'est que tu as l'inverse dans l'analyse de ce que tu as eu il y a une semaine.
Sauf qu'on avait un Lyon dans d'autres dispositions que le OGC Nice une semaine auparavant.
C'est sûr.
Et puis peut-être que Nice était l'exception dans la saison finalement et que cette équipe est revenue à ses classiques, c'est-à-dire un mental en carton.
Ouais, c'est la pire équipe, hein, le FC Nantes, entre la 60e et la 95e, si on compte le temps additionnel. C'est la pire équipe de Ligue 1, tout simplement. C'est l'équipe qui encaisse le plus de buts. Donc, alors, est-ce que Loïc dit que c'est pas physique ? 19 sur 45 buts
encaissés
entre
énorme.
La 60e et la 90e.
Donc tu plonges ouais, dans l'intensité, dans le physique.
Est-ce que c'est pas physique ? Franchement, on peut pas avoir la réponse.
Bah c'est sans doute un mélange de tout ça. Écoutez, bah oui, Comboiré sur le sujet.
C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a fléchi physiquement. Et puis après, donc, on a surtout été incapable de tenir ce ballon, de faire courir l'adversaire et puis se mettre en situation, donc, comme en premier mi-temps, d'aller poser des problèmes au gardien, quoi, à Lopez. Et aujourd'hui, on est aussi déçu par ce qu'on a montré dans le dernier quart d'heure. Mais là, j'ai parlé de fragilité. De toute façon, le combat, il va être jusqu'au bout.
Il y a cette fragilité mentale aussi évoquée par le coach, parce que autant à Nice, Nantes avait été capable de réagir, autant on a vite compris, quand Lyon a égalisé, que les Nantais étaient en train mentalement de lâcher, et ça s'est avéré, Jean-Marcel, vrai par la suite.
Bah, je pense que oui, avant même de prédire une défaite, en tous les cas, on savait qu'ils n'allaient pas gagner et qu'ils ne reviendraient pas à ce qu'ils ont fait à Nice, ils n'allaient pas le faire contre Lyon. Qui, en tous les cas, a changé complètement de visage, effectivement, après le fait de jeu dont on reviendra.
Et puis l'entrée, la casette. Les entrées de Cherki et Fofana aussi.
Bah, c'est ce que j'allais dire, mais, voilà.
Ouais, mais je David, préfère anticiper, David, parce que je ne sais pas ce qu'il va le dire.
Ce sera trop long, son développement.
Ouais, okay. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter.
C'est important de le couper, comme ça. Allez-y,
avant ça, les amis, il a manqué au FC Nantes cette capacité à tuer le match. Écoutez Pedro Chirivella et puis on en parle ensemble.
On a mené un score ici à la Boujard, ça faisait un moment. Et on a des situations pour marquer ce deuxième but qui nous aurait fait un grand bien. C'est toujours le plus difficile, c'est de faire les breaks, c'est de marquer ce deuxième but pour tuer le match un peu, pour jouer un peu à notre rythme, et voilà, on n'a pas fait. Maintenant, je pense qu'il faut rester positif. On a vu une équipe très cohérente en première mi-temps et il faut se remettre la tête à l'endroit pour faire un gros match à l'air.
Je coupe le micro de David. Jean-Marcel, cette incapacité à tuer le match, c'est aussi ce qui empêche les Canaries de prendre
dire,
des points.
C'était mon troisième argument si David m'avait laissé terminer. En fait, effectivement, c'était non seulement pour lancer le son, mais c'était pour dire que le FC Nantes a au moins quatre occasions franches, ouais, avant l'égalisation de la casette. Et ils ont même une balle de 2-0 avant la pause. Donc, ils ont en tous les cas eu les situations pour ne pas se mettre et rester sous la menace de Lyon.
Mais Pab. Moi, je trouve qu'ils avaient été quand même jusque-là solides. Moi, cette soirée, je l'ai vraiment trouvé étrange parce que tu fais une très bonne première mi-temps, tu ouvres le score, comme dit Pedro Chirivella, c'était pas arrivé... Depuis un moment, tu maîtrisais globalement
contre
les...
Nice, déjà.
Ouais, le dernier
mais
match.
À la Beaujoire, j'entends.
À la Beaujoire.
Et j'attends que David, qui a ouvert le procès Schmeurt, ouvre le procès Mohamed.
Ah bah oui, si tu veux, on peut l'ouvrir. Ouais, okay. Trois face-à-face manqués, mais je pense qu'on n'était pas là-dessus avec Pam. Mais,
oui.
Non, mais si tu veux...
Mais vous faites le podcast avant le podcast, les gars, ou...
Tu m'as agacé par David tout à l'heure. Garde tes crampons pour l'instant.
On est qu'au début du podcast.
Vas-y, Pam.
Non, mais voilà, moi j'avais trouvé qu'il y avait eu globalement la maîtrise et que même si effectivement ils n'ont pas réussi à mettre le deuxième but, ils étaient arrivés à tenir défensivement. Et c'est vrai que c'est le fait de craquer deux fois en trois minutes qui est
on
terrible.
Le sent venir quand même, ce craquage.
Oui, Comboiré
prépare ses changements. Ça fait deux minutes que cette équipe nantaise, Sissoko, oui. Chirivella, on les voit tirer la langue.
Là où tu as un manque de maîtrise, c'est que tu as des occasions de chaque côté. Comme l'a dit Jean-Marcel, Nantes a l'occasion de mettre le 2-0.
Il n'y a pas d'occasion franche de Lyon jusqu'à l'égalisation. Oui, il n'y a qu'un tir cadré, je crois. Ils ont la situation.
Je sens les Nantais qui commencent à tirer la langue.
Oui, par contre, effectivement, on s'est fait la réflexion d'ailleurs avec Loïc au stade. On disait Cherki, je crois, rentre quasiment une minute. C'est sur l'action précédente du changement nantais. Et on disait, j'espère qu'on ne le regrettera pas parce qu'on voyait bien que le milieu de terrain. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs, il y avait des espaces entre les lignes où cette équipe-là, elle était coupée en deux, elle faisait plus bloc. Et donc, elle a ouvert des espaces au Lyon, et avec des entrants, en tous les cas, qui avaient des jambes de feu.
Cherki, Fofana, il marque sur son premier ballon et il marque sur son deuxième ballon.
Cherki est venu se positionner derrière le duo Douglas Augusto, Pedro Chirivella, entre les lignes.
S'il y a une baisse physique, c'est aussi parce que Nantes a commencé vraiment à courir après le ballon. En première période, même si Lyon avait la possession, les débats étaient un peu plus équilibrés. Deuxième période, à partir de l'heure de jeu, Nantes a vraiment, vraiment souffert à ce niveau-là.
Est-ce que Comboiré a fait des changements trop tardifs? On peut se poser cette question-là, parce que finalement, si
la question lui a été posée.
Il s'est expliqué un petit peu en conf de presse, après le match. Pardon, je te coupe.
Vas-y, qu'est-ce qu'il a dit?
J'espère que tu m'en voudras pas. Mais voilà, en fait, il a trois sessions de changement. Il avait dû en faire une avec la sortie sur blessure au genou de Tchemert par Zézé. Et il s'est passé l'action avec la casette polémique où Zézé se fait ouvrir l'arcade. Et il y a eu un petit flottement à ce moment-là de savoir est-ce que Zézé va pouvoir tenir sa place. Donc le coach dit le doc nous a donné le feu vert, le joueur lui voulait continuer, disait qu'il pouvait continuer, mais il restait un petit peu dans l'expectative à voir un peu comment ça allait se dérouler, et du coup il a retardé sa deuxième session de changement. Et c'est vrai que l'égalisation est arrivée à ce moment-là.
Premier élément pour expliquer son retard à l'allumage dans les changements, est-ce que c'est aussi la différence de qualité de banc entre les deux équipes qui fait cette différence-là? C'est qu'il n'a pas le matos pour conserver le même niveau dans son équipe.
Il a aussi dit que le premier argument, c'était la blessure à l'arcade de Zézé qu'il attendait. Il se disait, on tenait aussi, on était plutôt consistant dans cette configuration-là. Effectivement, comme tu dis, peut-être qu'il n'a pas voulu effectuer de changement.
On parle de la défense. Est-elle à nouveau en cause sur ce match-là? D'abord, Tchemert, je l'ai trouvé à la rue avant de se blesser. Puis Zézé,
fébrile.
Puis ouais. Zézé, trop tendre. Alors,
avant le coup d'envoi.
Tchemert, avant le coup d'envoi.
Même à l'échauffement, on a vu ça.
C'est vrai. Vous avez regardé l'échauffement de Tchemert? Ouais. Je l'ai raté, j'ai pas fait attention. Hein. C'est vrai que je regardais les tribunes.
Sur le coup d'envoi, au bout de 20 secondes, t'as une énorme occasion pour Lyon parce qu'il fait la passe à l'adversaire.
Ah ouais.
Donc, et ce qui est catastrophique.
Alors, il se pourrit le match tout de suite. Hein.
Et ce qui est marrant, c'est que, par contre, il pourrit ses copains derrière. Ça, j'aime bien.
C'est l'expérience.
C'est comme au futsal ou je sais pas quoi, tu fais une connerie et tu dis à tes copains, un peu comme Jean-Marcel quand il sait plus ce qu'il veut dire, tu dis, il va voir David, tu m'as coupé,
et toi, Mohamed,
c'est ta
tout.
Faute.
Ouais.
Okay.
Autant Schumer, pendant des semaines, on a eu du mal à. Vous savez s'il est toujours avec nous, Jean-Marcel, On a eu du mal à le juger, on disait toujours, mais Schumer, on sait pas trop le niveau. Bon, là, ça y est, on a compris. Hein. Franchement, il est pas du tout au niveau de la Ligue 1, Schumer, et je pense
international
qu'il va.
Il est toujours international suisse.
Enfin, vraiment, là, ça, depuis le début de l'année 2024, c'est catastrophique.
C'est vrai qu'il est
fébrile. Sur les premiers mois, on se disait, il est toujours sur un film, mais il s'en sort tout le temps.
Ouais, là,
il
à l'expérience. Mais plus ça va, plus on sent un peu l'escroquerie quand même. Oui. On sent le garçon qui, et en plus psychologiquement, il ne s'est jamais remis parce qu'un international solide, il peut faire une erreur, mais il ne s'est pas remis dans la demi-heure qui a suivi quand il a joué de cette erreur initiale dont tu parlais, Pab, et Tchemert. Vous ne l'avez pas noté du coup, Loïc, on en a parlé en tribune de presse, vous n'avez pas pu le noter, mais la note aurait été salée, j'imagine.
Combien, Loïc?
Tchemert, ouais. Si j'avais eu à le noter, je sais pas, 2,5.
C'était très très moyen. Après, c'est... Enfin, pour faire l'avocat du diable, il fait une entame catastrophique. Il est, comme dit David, sur un fil. Et tu as une défense nantaise qui a quand même souffert dans le premier quart d'heure.
C'est vrai.
Tu prenais vague
sur vague.
Est-ce
que c'est sur des pertes de balles de sa part?
Ouais, souvent à la relance et franchement, dans le positionnement, dans cette surface, il n'est pas rassurant.
Moi, ce qui me déçoit d'autant plus pour un joueur de son expérience, c'est surtout sa lecture du jeu. Je le trouve fréquemment en retard quand le ballon arrive dans sa zone ou quand il y a des déplacements qu'il n'arrive pas à gérer.
Bah, ça fait quand même un paquet de matchs où il est... soit il n'est pas sur les points chauds, tu te demandes où il est, soit il est responsable, ou sans dire coupable,
impliqué.
Mais au moins impliqué sur les buts. Tu prends le but à Marseille où il percute Lafond.
Ouais.
Le match d'après, contre Strasbourg, il est pareil... l'attaquant coupe devant lui, il percute encore Lafond, t'as l'impression qu'il lui en veut.
À Nice, c'est lui qui cause
le pénalty.
C'est pédo, ça commence à faire beaucoup.
Ça fait beaucoup. Zézé qui l'a remplacé, est-il trop tendre pour ces matchs à forte pression? Et il y avait cette cagade, ça arrive ça, dans une carrière à Strasbourg, face à Strasbourg à domicile. Là, il est relancé dans le grand bain, il prend un coup sur la tête, est-ce que ça a joué ou pas? En tout cas, il est ensuite en difficulté dans ce match-là.
Pour lui, il y a eu un avant-choc avec la Cazette et un après-choc. C'est-à-dire que avant le choc, il dégage justement un ballon brûlant pour la Cazette, me semble-t-il. Il intervient dans le domaine.
Ouais.
Et donc là, il a fait valoir quand même son timing, parce qu'il a un bon timing, il a une bonne détente.
Ouais.
Et après, il a été vraiment en grosse difficulté. Alors, je crois que Jean-Marcel sera pas trop d'accord, mais le but lui est quand même en partie, l'égalisation lui est quand même en partie imputable.
Déjà, ça va extrêmement vite. Surtout en plus lorsqu'il est pour dégager, en fait la seule solution c'était on me dit de dégager en corner, mais en fait le ballon il veut le dégager, je pense qu'il voit pas la Cazette puisqu'il y a, il y a un bout de en plus du casque qui du bandage qui lui a été mis sur la tête.
Mais ouais, non, mais alors là c'est pas sérieux, excuse-moi.
Non, mais c'est pas pour sérieux. Ça, c'est pour ça qu'il, enfin, c'est pour ça qu'il monte
s'il pas
sur les corners.
Si pas à 100%, il sort.
Moi j'ai ça c'est la responsabilité.
Ça c'est
la responsabilité du coach. C'est la responsabilité du coach.
C'est un bonnet, c'est pas un casque.
Oui, c'est un bonnet de bain. C'est un bonnet de bain. Alors, si ça lui masque la vue, et en plus.
Non, mais vous regarderez sur l'angle.
Mais il n'y a pas eu de protocole commotion. Ce moment, d'ailleurs, on va y venir, hein, mais ce moment, au-delà de la faute de la Cazette et l'expulsion, il reste pendant 4 minutes. Il reste pendant 4 minutes au sol. Déjà, il n'y a pas de protocole commotion. Pourquoi il est soigné sur la pelouse, on ne comprend pas. Et derrière, il reprend le jeu, comme si de rien n'était. C'est un événement, c'est un ovni dans ce qu'on vit actuellement dans le football. Et alors, si après, c'est un problème de vue au moment de dégagement.
Non, je dis pas. Tu regarderas comment il est positionné par rapport à son but et comment il est positionné par rapport au ballon. Et la Cazette, il le voit pas forcément débouler quand il commence à armer. Et après, ça va extrêmement vite.
Il est quasiment devant lui. À ce moment-là. Dans sa tête, ça tourne un peu. Il dit,
ouais, bah, surtout que la Cazette, juste petit aparté, mais au-delà du coup de coude sur Nathan Zézé, il est aussi impliqué, comme tu l'as dit, Simon, la faute sur Nathan Zézé se passe à la 52e minute et à la 59e, il y a un accrochage dans la surface de réparation lyonnaise où il met quand même une belle semaine sur le bout de pied de Mathis Seblin.
Donc ça fait beaucoup. Zézé, on va en reparler tout à l'heure, à savoir si on le met dans la compo face au Havre. Pab.
Non, mais juste sur Zézé, c'est vrai que la fin de match pour lui a été malheureuse et en plus, il est impliqué. Donc sur l'égalisation lyonnaise, le deuxième but, le ballon lui passe entre les jambes, il n'a pas de réussite. Et le troisième but...
Il tarde à sortir aussi.
Oui, il tarde à sortir. Et le troisième but, il se fait manger par Baldé, je crois, qui file au but. Donc il est impliqué.
Non, mais soirée difficile,
mais
c'est sûr.
Ce que j'allais dire, c'est que contrairement c'est dur, à Tchemer, au moins il est sur les actions.
Oui, c'est vrai, il n'est pas trop loin, c'est sûr. Zézé a une grosse responsabilité sur les trois buts lyonnais. Palois connaît ses limites, on connaît ses limites physiques. Pas sûr que ce soit l'homme de la situation non plus.
Surtout dans une défense à 4.
Et on va en parler tout à l'heure. Qui choisir face au Havre, ce sera l'un des débats, mais c'est vrai que la défense nantaise a été en difficulté sur ce coup-là. L'arbitrage, on en parle forcément aussi. Y avait-il carton rouge pour la Cazette lors du coup de coude sur Zézé? Et est-ce que c'est le tournant du match? Qui ici considère que le rouge est discutable? Est-ce qu'il fallait mettre carton rouge, oui ou non? David? Pas sûr.
Pas sûr.
Pas bas.
Voilà.
Pour moi, il y a rouge, oui.
Rouge.
Bah, David peut les mettre pour un fumier, mais pas pour un
coup. Ça, on en parlera tout à l'heure, Jean-Marcel.
Personnellement, mais ça dépend. Il y a la sécurité des biens et des personnes. Ils préfèrent protéger les biens plutôt que les personnes. Moi, je suis plutôt pour la protection des personnes. Et j'aurais mis un carton rouge à la Cazette.
Merci.
Pour l'ensemble
Jean-Marcel,
de son œuvre sur le match.
De cette réponse complète.
Non, non. On ne parle pas de l'ensemble de l'œuvre. Tu parles aussi de la semelle. Je te parle que du.
Oui, mais Jules l'aurait mis, ouais. Après visionnage de la vidéo, Jules l'aurait attribué, ouais.
Loïc.
Oui, pareil.
Donc carton rouge
direct.
Oui, mais c'est parce que Loïc est supporter de Saint-Etienne.
En fait, moi, j'ai réfléchi comme David. Je comprends.
Non, t'as pas réfléchi comme David.
Non,
c'est pas possible. Personne ne réfléchit pas là.
J'ai réfléchi, virgule, comme David. Non pas. J'ai réfléchi comme David. Et c'est vrai qu'il est possible, de mettre un orange ou de l'expliquer en allant voir la vidéo et en expliquant les choses aux acteurs du jeu. Maintenant, pour moi, c'est rouge. Je le dis, c'est rouge. Mais j'essaie de comprendre la démarche de Monsieur Brizard. On va écouter Antoine Comboiré, qui, lui, s'est carrément pointé avec son iPad à la fin du match dans le vestiaire de l'arbitre.
Je suis allé, j'ai amené l'iPad. Ouais. Oui, puis l'iPad avec l'image arrêtée où on voit la Cazette, c'est le coude gauche. Mettre le coude dans le visage. Puis il dit, voilà, c'est un volontaire, il peut raconter ce qu'il veut. Même aux Lyonnais, tu leur montres l'image, ils te disent, il y a un carton rouge. Voilà. Et si c'est pas la Cazette, si c'est pas Lyon, voilà, t'as toujours le sentiment qu'il s'est arbitré différemment. Voilà. Sur ce coup-là, tu peux me raconter ce que tu veux. 10 fois sur 10, carton rouge. Mais au moins, tu vas voir les images. Va voir la VAR. C'est tout ce qu'on leur demande. Monsieur Brizard, la prochaine fois, allez voir les images.
Allez voir les images, Monsieur Brizard, pour rassurer les acteurs.
Les gens savent que Comboiré est sous contrat avec Apple.
Oui, petite pub.
Après,
placement de produit.
Je suis pas sûr qu'il ait calé lui-même l'image.
Je sais pas si Monsieur Brizard s'est contenté de lui dire c'est involontaire, mais ça, c'est pas du tout un argument. Non. Franchement.
Ah non, s'il y a une menace sur l'intégrité physique du joueur.
Ouais, parce qu'il y a eu des gestes. Alors, souvenez-vous, Traoré, c'était aussi involontaire. Non, ça se mêle sur, dans la surface de réparation contre.
Clermont.
Clermont, ouais.
C'était totalement involontaire. Il a pris un rouge.
Et puis, c'est arrivé combien de fois que t'es un joueur qui prenne un jaune après un tacle? Et puis tu vois que le gars reste à terre, il baisse sa chaussette, il a une marque rouge, bah tu changes le jaune en rouge, ça arrive en fait.
Ils ont patouillé total, hein, les arbitres, parce que le quatrième arbitre a d'abord dit à Comboiré, non, on a vérifié là-haut, c'est un coup d'épaule.
Mais en fait, le
Comboiré était très remonté, il nous a dit, il m'a menti le quatrième arbitre. C'est de l'incompétence, soit c'est du mensonge, c'est l'un ou l'autre, et il a raison, ils sont pas cohérents.
Non, mais surtout, ce que dit Comboiré, je pense que tu voulais venir là-dessus, et c'est un débat qu'on a déjà eu plein de fois. C'est pourquoi, dans ce genre de situation, systématiquement, l'arbitre ne va pas voir les images. Qu'après, il garde sa décision et dise...
Ça désamorce un peu.
J'ai regardé les images.
Et tu expliques.
Je maintiens un jaune parce que pour moi, c'est involontaire, peu importe ses arguments. Il va voir. Sauf que là, tu le vois. En plus, comme tu l'as dit, Zézé, il se fait poser son bonnet de bain avec du Chatterton chez... Enfin, pendant
Arcade explosé, ça saigne abondamment. Il a le temps d'aller voir la VAR.
Et tu vois notre... Monsieur Brizard, la main sur l'oreille en train d'attendre. Je sais où il est l'écran, il est en bord de terrain à côté de la zone technique. Va voir, c'est à 5 mètres.
Je sais pourquoi il le fait pas.
Parce qu'il
a peur que ça atteigne sa légitimité, son autorité.
Parce qu'ils vont être moins notés. Non, c'est parce que si les gars vont. Enfin, les arbitres, c'est quand même incroyable. C'est que s'ils vont voir les images de la VAR ou que par hasard ils se déjugent, machin, ils perdent des points. Faut arrêter de
et on va dire les choses. En plus, ils sont pas associés à la VAR avec des arbitres particulièrement avec lesquels ils s'entendent bien. Ils choisissent pas le duo. Donc parfois, t'as des arbitres
qui sont
notés
surtout. Enfin,
t'as des arbitres qui sont en concurrence les uns avec les autres dans le classement des arbitres pour rester à arbitrer en Ligue 1 et dont l'un est à la VAR et l'autre ne l'est pas, par exemple, ou pour être arbitre européen. Donc évidemment, il y a un enjeu à aller faire aller son collègue sur le bord de la pelouse. Enfin, on est sur des trucs.
T'es censé être impartial et t'as des décisions.
Ça n'existe pas. Ils sont en concurrence, ils sont notés, ils ont des performances à réaliser. Donc, ouais, on sort de l'objectivité du jugement sur cette action.
Vas-y, Loïc. Tu as eu un contre-exemple avec ce qui s'est passé à la Mosson hier après-midi, à savoir que l'arbitre accorde un pénalty au Lorientais. Il est appelé par la VAR. Il va voir de lui-même les images et il se déjuge.
Ça enlève toute critique possible derrière, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la frustration, on se dit « Ah, s'il avait vu, peut-être qu'il aurait changé d'avis. »
Et en fait,
le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas le régler cette saison, puisqu'on est rendu sur une saison très sombre, et là, je ne parle pas que du FC Nantes sur l'arbitrage,
ou
quasiment sur tous les matchs de Ligue 1, aujourd'hui, cette question-là de l'intervention du VAR se pose.
Mais parlez en off à des arbitres, et ils vous diront qu'ils se sentent totalement abandonnés sur cette fin de saison par les instances dirigeantes, et qu'ils sont sous le feu des critiques sur chacune de leurs décisions, qu'il n'y a pas de soutien de la hiérarchie, et qu'ils sont aussi, je l'ai dit, en concurrence avec les gens de la VAR. Écoute Pedro Chirivella, je te redonne la parole, Pab, sur la VAR en France.
Ça fait 4 ans que je suis en France. C'est la VAR ici en France, c'est différent. Par rapport à l'Europe, c'est un geste pas maîtrisé du tout. J'aurais bien aimé voir l'autre côté, comme au Palois, au Castelletto. Voilà, c'est tout.
C'est ça que je voulais dire. C'est ce qu'il vient de dire là et ce qu'on a commencé, ce qu'a dit Antoine Comboiré avant. C'est que le problème, c'est que non seulement l'arbitre ne désamorce pas en n'allant pas voir les images, et du coup, tu te retrouves en plus à te dire que tu as un arbitrage à deux vitesses, de dire que parce que c'est Lyon, parce que c'est la Casette avec son statut, son CV d'international français, il échappe au rouge par rapport à effectivement à un Palois, à un Castelletto. Lafont a dit, ça avait été Mohamed, ça aurait été pareil. En fait, tu as l'impression que les Nantais, surtout avec l'expérience de Benny Traoré qui a pris 3 matchs pour une semelle involontaire sur un Clermontois, et t'as l'impression qu'en fait t'as 2 poids 2 mesures. Si t'es Nantes, tu vas être plus sanctionné que si t'es Lyon.
Est-ce que c'est un débat de loser de poser la question de l'arbitrage à chaque fois que le FC Nantes perd? C'est ce qu'on nous reproche souvent. David, d'ailleurs, dans la préparation du podcast, tu as écrit cette question. Le FC Nantes est-il lésé par l'arbitrage cette année? Alors, à chaque fois, on se fait la même en disant qu'on n'interroge pas la question de l'arbitrage quand Nantes gagne à Nice, alors qu'il y a peut-être des faits d'arbitrage qui sont discutables différemment. Toi, tu considères qu'ils sont lésés, les Nantais?
Lésés, oui. C'est vrai que je trouve que cette année... ça fait quelques années qu'on fait le podcast, je trouve que c'est la première fois qu'on parle autant d'arbitrage, je trouve. Donc,
T'as quand même une Nice-Nantes la saison dernière avec le texier.
Ouais, mais là, franchement, j'ai l'impression que tous les 15 jours, il y a eu des polémiques. Il y en a eu pas mal avec Gourvennec, il y en a eu avec, je crois qu'avec Pierre Aristu, il y en a eu aussi. Mais comme disait Jean-Marcel tout à l'heure, je suis plutôt d'accord, c'est sur tous les stades. Voilà, c'est tous les week-ends, il y a des soucis.
Bah oui, tous les...
Après le match, je disais à Loïc justement que je voulais pas qu'on passe tout le podcast sur l'arbitrage. Alors parce que ça allait. Mais toi, tu considères, Loïc, que ces faits-là changent le devenir de cette rencontre et que l'expulsion.
De cette rencontre-là, ouais. Oui. Après, attention, hein, si Nantes est 15e aujourd'hui, Nantes est à sa place.
Bien sûr.
Très clairement. C'est pas un argument de vente pour le FC Nantes, hein, au contraire, pour expliquer cette situation. Non, ce que je dis, c'est que évidemment que la non-décision de Jérôme Brizard, ou en tout cas celle d'infliger uniquement un carton jaune, a un impact sur la rencontre, puisqu'en n'expulsant pas Lacazette, il permet au capitaine lyonnais d'inscrire le but de l'égalisation. Et donc, il a forcément eu un impact sur le verdict de ce match.
Ouais, voilà. Surtout dans une position comme Nantes, où tu luttes pour le maintien, et chaque point peut faire une différence de malade. Je prenais l'exemple, on a eu effectivement un gros exemple la saison dernière, qui est le Nice-Nantes, avec l'égalisation niçoise dans les arrêts de jeu. C'était un match en octobre, et on en a parlé toute la saison, parce que ces deux points que tu as perdus... Eh ben, si tu les avais pris, tu faisais pas les barrages, en fait, et tu te maintenais directement. Et effectivement, ça fait pas mal de scénarios de match qui auraient pu
Marseille,
tourner
quoi,
et offrir. Voilà, c'était, t'as deux pénaltys à Marseille.
On en parle souvent.
Clairement, t'as eu pénalty. Enfin, voilà, contre Laval, tu serais peut-être encore en Coupe de France. Tu ne sais pas. Mais par contre, Antoine Comboiré, après le match, il ne s'est pas... apesanti. Enfin, il a parlé,
il
évidemment.
Il en a parlé,
oui, mais en conf de presse, il a dit... Attention, ça n'explique pas la défaite.
Il y a aussi 3-1 pour d'autres raisons.
Il a tout de suite enchaîné sur on fait pas une bonne deuxième mi-temps, on a plongé dans les dernières 20 minutes. Et il a aussi dit, ce qui était notre tout premier débat sur le mental, il a dit, cette équipe-là, le problème, c'est que ce fait de jeu, ce fait d'arbitrage, fait que les joueurs sont un peu sortis de leur match à un moment. Parce que tu ressasses, parce que tu as ce sentiment d'injustice, et que quand en plus, derrière, tu prends un coup de bambou avec des buts lyonnais, tu n'arrives plus à remonter.
Allez, messieurs, on parle du déplacement en Normandie des Canaries.
Loïc Folio, Jean-Marcel Boudard, Pierre Arnaud Barre, David Filippo, Simon Rongoat. Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
On aborde le fameux dernier tournant de la dernière ligne droite, cher Loïc Folio. 6 matchs pour se maintenir avec un déplacement au Havre dimanche qui pourrait bien valoir très cher à l'heure de faire les comptes.
Dans la city d'Edouard Philippe, comme il n'y aura qu'un seul doudou, c'est mon daron Paul Merlin.
C'est Caris.
Non, Nino.
On va s'asseoir dans le jury. Je te souhaite la bienvenue au Havre. Autrefois appelé Francisco Police. La puissance du port du Havre. C'est la puissance du port du Havre.
La bazooka.
Non, c'était pas mal. Non, mais la puissance du port du Havre, je pensais que c'était ça. C'est Médine. Voilà. Je vous invite à regarder le clip. Hein. C'est vraiment très, très chouette. C'est tourné, je pense, justement, sur le port du Havre. Le FC Nantes a-t-il tout de même quelques certitudes avant de se rendre en Normandie? Est-ce qu'on dresse un tableau noir?
Non, bah non, il en a, je trouve. Il a retrouvé quand même de l'allant offensif. Il arrive à se procurer des occasions, plutôt des occasions nettes en plus, et des face-à-face, parce qu'on l'a oublié, mais il y a un très bon Anthony Lopez derrière face à Nantes. Il y a peut-être un Mustapha Mohamed dans le doute, mais en tous les cas, c'est une équipe qui, je trouve, sur la première mi-temps de Lyon, mais comme elle l'avait fait aussi à Nice, se procure des occasions. Et même, je pense qu'elle s'en est procurée plus, en tous les cas, d'occasions franches face à Lyon qu'à Nice.
Je te laisse le micro sur Mohamed, parce que tu as essayé tout à l'heure de tenser David sur ce sujet-là. Mustapha Mohamed, tu penses qu'il faudrait le sortir parce qu'il n'est pas au niveau? Il rate trop d'occasions pour toi, Jean-Marcel?
En tous les cas, ce qu'on attend de lui, et si on le maintient parfois, c'est parce qu'on est... On peut se dire qu'il peut passer à travers un match, c'est-à-dire accepter de jouer à 10. Alors quand je dis jouer à 10, c'est-à-dire de ne pas le trouver dans le jeu, même s'il fait les efforts défensifs, effectivement. Mais en tous les cas, de ne pas le trouver dans le jeu. Et là, je trouve qu'on le trouve, mais parce qu'on se dit qu'il va y avoir sur une ou deux occasions.
Il l'a eu d'ailleurs. On l'attendait là, cette frappe du gauche.
Hormis ce début sur coup de pied arrêté récemment des pénalties, ça fait longtemps que je trouve qu'on n'a pas vu un vrai but dans le jeu qui débloque une équipe ou qui permet à son équipe de
l'emporter. Après, de là à dire, tu joues à 10 avec Mohamed, je trouve que c'est un peu dur vu le travail qu'il effectue, que ce soit devant ou derrière. Moi je trouve que c'est une occasion qu'on peut lui reprocher. Les deux autres, je trouve qu'il est dans un angle assez fermé sur ces deux frappes, notamment la troisième. C'est surtout la première, c'est avant le but nantais. C'est
quand Lopez a plongé en plus.
C'est quand son dernier but dans le jeu?
Tu sais, toi, Jean-Marcel, ou tu
sais? C'est pour ça que je demande à David qui suit tous les matchs et qui fait les déplacements pour nous et qui est au stade. Donc c'est pour ça que je me permets de
le dernier but dans le jeu, c'est Toulouse. Non, mais faut pas hésiter à me demander.
C'était sur coup franc.
C'est coup franc.
Ouais. Bon, David va chercher dans ses papiers parce qu'il prépare les podcasts. Hein, il a énormément de dossiers voilà. sous le coude.
Je trouve que c'est dur quand même sur le match de Lyon. Oui. Bah, il a. Enfin, est-ce que tu préfères. Enfin, c'est il y a rien de bien, mais moi je préfère un Mohamed qui se crée des occasions et d'avoir un grand Lopez ou un Poto plutôt que le Mohamed qui a pas un ballon. Je prends même à Nice où tu gagnes. Mohamed, il marque le penalty. Bon, ok, il soigne ses stats, mais il a aucune occasion, aucun tir avant.
Loïc, il y a un acteur qui va revenir dans la danse, c'est Kadewere qui ne pouvait pas jouer face à l'Olympique Lyonnais. Il y avait un deal avec le FC Nantes. On considère maintenant qu'Ablin s'est rendu indispensable en deux matchs et qu'il faut l'aligner face à cette équipe du Havre. Est-ce que Kadewere, c'est une solution aussi pour toi?
Bah, si jamais Mohamed effectivement est un peu plus en difficulté, moi je vous rejoins sur le fait qu'au moins on voit un Mohamed qui se crée des opportunités, ce qui n'était pas le cas sur les derniers matchs. Kadewere, j'ai l'impression que pour l'instant dans l'esprit d'Antoine Comboiré, c'est un plan B.
Kadewere plan B, tout le monde est sur ce donc Mohamed pas en danger, tout le monde est sur
dernier but dans le jeu, c'est pour une fois il a raison. C'est le 1er septembre contre l'OM. Ouais. Parce que, 1er septembre.
T'inquiète
parce qu'autrement,
pas.
Il avait marqué sur coup de pied arrêté contre l'Orient. À Paris, c'était sur un corner, une tête, c'est ça. Et ensuite, c'est Toulouse. Et ensuite, c'est Nice. Donc,
il était venu chargé. Hein, c'était pas dit en l'air hein, de la part de Jean-Marcel. Ouais.
Non, mais ce que je regrette en tous les cas, c'est que c'est un joueur qu'on défend pour son efficacité parce qu'il il est plus tueur que les autres. Et je le trouve relativement dans le doute, en tous les cas, pas au rendement où il devrait être au moins la trêve.
J'avais presque l'impression qu'il était gêné, il arrêtait pas de se
ce qui n'empêche pas qu'il y a ce qui n'empêche pas que par contre avec Mathis Ablin notamment une forme de complémentarité naissante qui s'intègre qui est plutôt intéressante je trouve dans les déplacements notamment où l'un libère des espaces pour l'autre et il lui manque en tous les cas l'efficacité parce qu'on le trouve plus facilement qu'on l'a trouvé par le passé dans un passé récent.
On avait dit la même chose avec Kadewere en janvier quand Kadewere est arrivé
il y a deux matchs.
Quel compo au Havre, messieurs, faut qu'on avance un petit peu. Quel compo au Havre notamment défensivement, on a compris l'absence de Tchumer. T'as le sondage, David?
Vas-y. Le sondage. Quelle défense centrale au Havre en compagnie de Castelletto, qui lui est indiscutable, sachant que Schomert est blessé, suspendu.
Voilà. Ouais.
Zézé, 57%, Palois, 38%, Kozza, 2%. Et il faut passer à 5, à une défense à 5, 3%.
Allez, on se mouille, c'est parti. Qu'est-ce que vous feriez à la place d'Antoine Comboiré? Défense à 5.
La réponse de
Palois, pas, on lui pose pas la question. Non, si, ouais. Non, mais il a le droit parfois d'être un peu objectif. Pape, tiens, commence.
Je suis complètement objectif, Palois.
Palois, à coup sûr, Jean-Marcel.
Nathan Zézé.
Zézé, Loïc.
J'en ai aucune idée. Franchement, je sais pas. Je le vois pas Antoine Comboiré repasser à une défense à 5. Je me plante peut-être complètement. Le Havre a joué à 5 son dernier match, mais c'était probablement conjoncturel parce qu'il se déplaçait à Lens qui évolue comme ça. Sinon, il joue à 4 du côté du Havre. Je le vois maintenir Nathan Zézé, moi, avec Castelletto.
Zézé, voilà. Pour moi aussi, défense à 4 également.
Duverne.
Non, on l'a pas mis. Enfin, c'est toi qui as fait le sondage en plus.
Il peut jouer en défense centrale.
T'es gonflé.
Zézé.
Ouais. C'est son poste originel d'ailleurs.
Zézé.
Poste de défense axial gauche.
Ce qui est fou, c'est qu'on ne compte plus sur Palois, comme Comboiré d'ailleurs. Tous là. C'est enfin, par toi.
Mais on a compris hier, en tout cas, quand Schumert est sorti, que Zézé était dans la hiérarchie devant Nicolas Palois. L'eau nous dit défense à 4, remettre Zézé. J'ai trop peur pour la vitesse de Palois. Il faut remettre Zézé. Et sinon, Palois, dans une défense à 5, c'est beaucoup mieux. On doit aller au hack de manière conquérante. Comme à Nice, on n'a pas le choix. Et c'est vrai que Nantes doit faire quelque chose au Havre parce que le calendrier, et on va demander à Pab de nous raconter ce calendrier des dernières journées, est très compliqué. Comboiré, on lui a posé la question, c'est décisif au Havre ou pas?
T'as même sponsor.
Bah, décisif, non. Oui, mais on a dit, de toute façon, il restera encore. Il reste 6 matchs. Et quand on aura joué le Havre, il restera 5 matchs. Donc 5 matchs, 15 points. Voilà. Jusqu'au bout, ce sera décisif. Voilà. Ah, c'est toujours mieux de gagner. C'est toujours mieux de ne pas le perdre, mais bon, ce qui est important, c'est que au final, si on perd contre le Havre et on gagne tous les matchs, voilà, je signe. Il faut être costaud sur la durée. J'ai parlé aujourd'hui d'endurance mentale, c'est ce qui nous a manqué, être costaud sur la durée.
David, il nous a un peu renvoyé dans les cordes sur la question de ce match-là en disant on peut tous les gagner jusqu'à la fin, les matchs. Bon, ben on lui souhaite, hein, parce que les trois derniers, ils sont chauds, Pab.
Mais non, mais c'est surtout de faire comme la saison dernière quand tu te battais avec Auxerre, c'est de. c'est de lutter avec Lorient qui est deux points derrière toi et espérer que Lorient prenne pas plus de points que toi. On en est là, hein.
On en est là, mais le calendrier nantais à la fin est pour moi, non, mais Montpellier.
Il paraît que c'est pas un argument le calendrier. Vous
non, Montpellier et Le Havre.
C'est Jean-Marcel qui disait ça la dernière fois.
Non, j'étais pas là la dernière fois.
Mais non, mais il y a 15 jours ou il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, il était là. T'as pas de.
Non, c'était en novembre, mais on n'avait pas le même
calendrier.
Bah
non, le calendrier, bah non.
On était encore avec Aristouille quand je l'ai dit.
mais c'est ça.
Est-ce que la pression est plus forte sur Nantes que sur Le Havre avant cette rencontre-là? Je le disais, est-ce que c'est le concurrent du FCN avec Lorient, là, on est sur un match à 3.
T'as le même nombre de points.
Oui, oui.
On est sur un match à 3 avec Lorient.
Sauf que t'as une différence de but catastrophique par rapport, t'es à moins 9 par rapport au Havre, ça fait quasiment un point de plus.
Pour les
Havrais, la différence entre Nantes et Le Havre, c'est que les Havrais savaient qu'ils se retrouveraient probablement là, à cette période de la saison.
Nantes aussi, peut-être.
Parce que moi j'ai écouté Valdemar Quitta lors du dernier match et du sauvetage l'année dernière contre Angers. Ben non, je l'écoute. Il avait dit j'ai envie de construire quelque chose de très fort pour l'année prochaine.
Mais tu l'écoutes, mais est-ce que tu le crois ?
Ah, ça, c'est autre chose.
ça, c'est autre chose. Manu nous dit, sachant qu'il faut encore 2 victoires pour se maintenir, sachant également que le FCN gagne uniquement en cas de changement d'entraîneur quand il tombe sur Nice, on en déduit que la solution pour le maintien, c'est changer d'entraîneur encore 2 fois et programmer 2 matchs contre Nice. Voilà, c'est ça. Pour arranger nos histoires dans le calendrier.
Non, mais par contre, ce qu'il dit en disant 2 matchs contre Nice, c'est vrai que jusque-là, contre les concurrents directs, contre le maintien, t'as pas été bon.
Non.
Ça pas été bon.
Donc c'est bien de jouer des gros, quoi.
Bah ouais, tu perds contre
Clermont. On sait pas trop, pas tout, on sait rien.
Il y a que contre Lorient que t'as fait carton plein, en fait.
Bah oui, oui.
Jean-Marcel, en soirée, ce week-end, on m'a informé que tu avais calculé le nombre de points nécessaires au FC Nantes pour se maintenir.
Il était 29. C'est pas moi, c'était Michel Derzakarian qui a dit, après la victoire contre Montpellier, qu'il lui manquait encore 2 victoires.
Ouais, donc 38 points, il faudrait.
Oui, mais dans un championnat à 18, normalement, c'est un petit peu moins.
Oui, mais Michel Derzakarian pense qu'il lui en manque encore 2 victoires. Mais aussi, c'est aussi lié, je pense, au calendrier de Montpellier qui rencontre, je crois, 4 concurrents directs. Ce qui fait que eux, ça peut aller très vite.
Et oui, les points vont être distribués.
Voilà.
Donc ils peuvent finir avec ces 2 victoires. On débriefera mardi prochain ce déplacement des Nantais au Havre en Normandie. Messieurs, on va s'intéresser maintenant aux fumigènes.
Loïc Folio, Jean-Marcel Boudard, Pierre Arnaud Barre, David Philippot, Simon Rongoat. Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
On parle huis clos, fumigène et commission de discipline de la Ligue.
Comme un avion sans aile.
Un avion sans aile, c'est Charlie Couture.
Bien sûr.
Comme un avion sans aile.
C'est vraiment ce que je l'ai envoyé par texto à un pote d'ailleurs. Pendant le match.
C'est dingue.
S'en fout de
t'aider. Et tu chantes pas par contre, Jean-Marcel.
Tu peux chanter.
C'est une vraie histoire avec cette chanson.
Ah. Ça nous intéresse.
Alors si vous restez jusqu'au bout du podcast, il y aura l'histoire de Jean-Marcel avec cette chanson, c'est promis. Un stade de foot sans spectateurs, c'est comme un avion sans ailes. Tu entends un président beugler la verre. Tu n'entends aucun frisson monter des gradins. Bref, c'est la plaie. C'est la tristesse. C'était la Beaujoire dimanche dernier, sanctionné en raison de l'utilisation répétée et massive de fumigènes. On en parle avec l'avocat Pierre Barthélémy, spécialisé dans la défense des associations de supporters. Bonsoir Pierre Barthélémy.
Bonsoir.
D'abord, tout simplement, est-ce que vous pouvez nous expliquer juridiquement cette décision de la commission de discipline de la Ligue et comment vous l'avez comprise, vous, parce qu'elle a été très contestée?
Juridiquement, elle est difficilement compréhensible, c'est ça le problème. Même en tant qu'avocat, on a du mal à la comprendre. Le principe, on le comprend, c'est-à-dire que lorsque un club ne respecte pas les règlements, et en l'occurrence celui de faire respecter l'interdiction de l'introduction d'engins pyrotechniques dans son stade, il encourt une sanction. Mais sauf que quand on lit la décision, on est quand même très éloigné de tout ça. On a tout un réquisitoire à charge avec des faits qui sont dévoyés. On accuse le club de ne pas avoir voulu se défendre. On accuse le club de renoncer à lutter contre la pyrotechnie. On accuse les supporters de ne pas avoir participé à un événement festif, mais d'avoir participé à un événement hostile. Enfin, on a l'impression d'être plus dans une discussion de bistrot de gens qui méprisent ou qui détestent l'animation des tribunes plutôt que dans une décision juridique.
Discussion de bistrot, les mots sont forts. Ça veut dire qu'on a affaire à, selon vous, des gens qui connaissent très très mal la chose?
Alors je ne sais pas si c'est des gens qui connaissent mal la chose, mais c'est possible. Hein. Mais en tout cas, il y a des formulations très subjectives, des partis pris, qui montrent que c'est des personnes, en tout cas, qui ont décidé que la lutte contre la pyrotechnie était une des priorités, quitte à dénaturer les faits, à dénaturer ce qu'a réellement fait le club. Mais effectivement, quand vous dites qu'ils ne maîtrisent pas le sujet, la question peut aussi se poser parce que quand on considère qu'un club a renoncé à faire tout ce qu'il pouvait faire, parce que c'est ce qui est écrit dans la décision, et qu'on décide de lui mettre une sanction extrêmement lourde, un match à huis clos total, de match à huis clos Marseille, c'est plus lourd que ce qu'avait pris Ajaccio pour les incidents contre Bordeaux, où il y a eu des dizaines de blessés, envahissement de terrain, les joueurs étaient rentrés au vestiaire, il y a eu des chants racistes, des menaces de mort, etc. Et là, ça avait été un match ferme, un match partiel, plus un point de retrait, mais seulement avec sursis. Donc on se demande si ces gens connaissent vraiment ou apprécient vraiment ce qui se passe dans les stades. Et un élément qui est particulier, c'est quand vous lisez une interview du président de la commission de discipline en 2017 dans l'équipe, il dit aujourd'hui c'est quasiment impossible d'empêcher les engins pyrotechniques de rentrer dans un stade, il faudrait tripler les palpations et faire intervenir des équipes cynophiles. Et là, dans la décision, on lit que le club de Nantes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renforcé les palpations et il a fait venir une équipe cynophile. Et qu'est-ce qu'en conclut la commission de discipline? Que le dispositif mis par le FC Nantes était insuffisant, voire inexistant. Donc on se demande en quelque sorte où ils veulent en venir.
En fait, de ce que vous dites, en fait, le FC Nantes n'avait aucune chance de se défendre. Est-ce qu'il y avait des arguments, des choses que le club pouvait avancer pour faire réduire la sanction?
Non, enfin, c'est ça qui est vrai. C'est-à-dire que moi je vous le dis, je le pense sincèrement, s'il y avait eu des chants racistes, ils auraient plus de facilité à se défendre. Ce qui est incroyable, parce que là, qu'est-ce que le club pouvait faire de plus? D'abord, il a discuté avec ses supporters, il leur a envoyé un courrier officiel en leur disant pas de pyrotechnie parce que sinon on va prendre des huis clos et je vous rappelle que c'est interdit. Ensuite, il a payé des forces de l'ordre en nombre important pour que les forces de l'ordre assurent la sécurité autour du stade et donc les forces de l'ordre, elles ont le droit de fouiller les supporters. Ensuite, il a renforcé les palpations par ses stadiers. Auparavant, il a fait passer une équipe cynophile pour vérifier qu'il n'y avait pas de fumigène qui était déjà rentré dans le stade. Qu'est-ce que le club pouvait faire de plus pour éviter l'incident? Je pose la question à la commission de discipline, mais je pense qu'elle n'a pas la réponse.
Ça veut dire que là, les clubs, enfin avec des supporters qui emmènent des fumigènes, sont dans une impasse. Le FC Nantes est dans une impasse sur ce sujet, très clairement.
Je pense que c'est plus la commission de discipline qui est dans une impasse. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans une surenchère de sanctions pour de la pyrotechnie et elle a créé elle-même l'impasse. C'est-à-dire qu'il y avait avant une régulation de la pyrotechnie. Vous regardez, il y a 10-11 ans en arrière, on avait sur une saison 800, 900, 1000 fumigènes comptabilisés. Aujourd'hui, on a dépassé les 6000 et quand on en comptabilise 6000, ça veut dire qu'il y en a probablement 15 ou 20 000 qui ont été allumés sur la saison. Et c'est la conséquence directe du cercle vicieux, du cercle autodestructeur dans lequel est rentrée la commission de discipline avec ses huit clauses systématiques. Puisque c'est un point parmi d'autres, mais comme je l'expliquais précédemment, avant, quand il y avait une amende qui sanctionnait le nombre d'engins pyrotechniques, il y avait une autorégulation entre le club et les supporters, en bonne intelligence. Maintenant que vous savez que le prochain match, vous n'êtes pas là. Pourquoi vous embêter à vous limiter à 15 fumigènes alors que vous pouvez en brûler 300, sachant que quand vous en brûlez 300, il y a un tel nuage de fumée que vous ne pouvez plus être identifié à la vidéo. Plus largement, à partir du moment où la commission de discipline a décidé que c'était à elle de sanctionner tout le monde, que ce soit collectivement avec les huis clos, puis individuellement en cherchant à obtenir le nom des supporters et ensuite à essayer de suspendre leur licence de joueur amateur, parce que c'est ce qu'elle fait, ce qui est complètement illégal, mais qu'elle fait. La police et la justice, elles ne s'embêtent plus. Hein. Elles disent que quelqu'un est déjà passé et donc il n'y a plus du tout de sanctions individuelles et on est sur une commission de discipline qui est un peu maintenant toute seule dans son coin, dans sa surenchère. Et il y a des clubs comme Saint-Etienne ou Nantes maintenant qui jouent un tiers de leur match avec un stade totalement ou partiellement vide. Donc on va arriver à quoi? La moitié l'année prochaine? Ça n'a aucun sens et on va se retrouver à 8000, 9000 torches comptabilisées. Ça ne mène nulle part.
Si la motivation juridique est faible, en tout cas sur ce dont elle repose, quelle portée on peut lui donner dans ces cas-là à la sanction qui a été prise? Parce qu'on imagine que si la commission discipline s'est permise dans tous les cas d'avoir la main aussi lourde, c'est qu'elle a voulu soit faire passer un message, soit autre chose.
Soit faire passer un message.
Mais voilà, pour vous, pourquoi sur ce match-là? Alors qu'on verra bien, puisqu'il y a eu le match Marseille-PSG avec de la pyro et des feux d'artifice, qui a aussi été marqué par beaucoup de recours à la pyro. Donc on verra qu'elle fera en tous les cas sur ça. Mais est-ce que, pour vous, quel message elle a voulu faire passer?
C'est compliqué à dire hein, parce que on a le sentiment globalement que ce qu'elle reproche au FC Nantes, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas lui reprocher juridiquement. C'est-à-dire qu'elle lui dit vous n'avez pas, depuis septembre dernier, porté de plainte nominative contre vos supporters, vous n'avez pas pris d'interdiction commerciale de stade individuel. Donc en fait, ce qu'on a l'impression, c'est que la commission de discipline, ce qui l'intéresse, c'est de récupérer le nom des supporters. pour pouvoir ensuite prendre des sanctions individuelles. Mais ce qui n'est pas déjà juridiquement acceptable, puisque juridiquement, ce qui ne peut être pris en compte, c'est que ce que le club aurait pu faire avant la réalisation des incidents. Une fois que les incidents sont réalisés, on ne peut plus prendre en compte ce qui est fait postérieurement, puisque par définition, ce n'est pas ça qui aurait permis d'éviter les incidents. Et le gros problème, c'est que, et là je rends hommage au FC Nantes de ne pas tomber dans ces pratiques, c'est qu'on voit qu'il y a des clubs maintenant qui portent plainte nominativement au hasard ou qui prennent des interdictions commerciales de stade au hasard, transmettent ensuite, puisque la commission de discipline exige ces plaintes nominatives ou ces interdictions commerciales à la commission de discipline, sachant que le code du sport interdit formellement de communiquer à la commission de discipline ces interdictions commerciales de stade, mais certains clubs le font quand même. Ensuite, la commission de discipline, elle croise avec, ces noms-là avec le fichier des gens qui ont une licence de fédération, à la Fédération française de football, et alors qu'ils sont joueurs amateurs ou encadreurs amateurs, elle les suspend de leur fonction. J'ai vu le cas pour un supporter qui a été suspendu, il était encadrant bénévole, et donc les familles après n'avaient plus de, ne pouvaient plus, en U9 je crois, ne pouvaient plus faire jouer et entraîner leurs enfants le week-end parce que le supporter avait été encadré, mais quelqu'un qui n'avait pas été, le supporter n'avait pas condamné au pénal, il n'avait absolument rien fait. Et on l'a, je l'ai encore eu là, il y a une semaine avec un autre supporter complètement innocent. Le club en question porte plainte au hasard contre lui, donne la plainte, il est suspendu de sa licence FFF. Comme il y a une plainte, elle est instruite par la gendarmerie. Il a suffi de 20 secondes à la gendarmerie pour voir que c'était pas lui sur la vidéo. Et pourtant, la commission de discipline l'a quand même suspendu. Donc on est sur un système aujourd'hui de vengeurs masqués, enfin même pas masqués, qui n'a aucun sens. Puisque
ce qui est excessivement
grave. Enfin, c'est n'importe quoi.
Ce qui est excessivement grave, puisque c'est un détournement des ICS. Alors si on dit ce que c'est qu'une interdiction commerciale de stade, pour ceux qui nous rejoignent et qui sont peut-être un peu plus éloignés de cette procédure, c'est la possibilité pour un club, en tous les cas, de suspendre à la vente de billets à quelqu'un qui aurait contrevenu aux clauses relatives à la sécurité dans les conditions générales de vente. Alors, ça s'applique uniquement à la vente de billets, c'est-à-dire que ça ne concerne pas une interdiction de stade, c'est-à-dire que la personne peut aller au parcage adverse et peut se rendre dans un autre stade en tous les cas. Et on avait le sentiment justement que les IICS, ça patinait un peu, parce qu'à part le match Lens-Lille, où Lens, là, il y a eu des soucis de sécurité, notamment un envahissement de terrain et des entrées sur la pelouse, on n'a pas le sentiment qu'elle se développait et que c'était plutôt du coup par coup. C'est-à-dire que vous pensez aujourd'hui que la commission de discipline souhaite, en tout cas, mettre la pression sur les clubs pour qu'elles usent de cette arme-là,
elle
qui n'est pas contestable en plus, qui est difficilement contestable, si ce n'est au civil.
Elle écrit noir sur blanc, hein. Elle a dit je veux des identifications, je veux que les clubs me produisent les plaintes nominatives et les ICS, et je veux la preuve des envois des ICS, et je veux la date de naissance des supporters. Donc on voit très bien quelle est la logique, c'est-à-dire que c'est du délire. Si jamais elle voulait juste s'assurer que le club engage des démarches individuelles contre les supporters par les plaintes nominatives ou par des ICS, elle demanderait juste copie sans le nom.
Sauf que théoriquement, ces ICS-là, elles sont régies aussi, elles sont encadrées dans tous les cas, puisque je crois que seule la CNIL peut y avoir accès.
Les ICS, il y a un article du sport, je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est R332-17 qui liste les personnes qui peuvent y avoir accès. Mais dans les ligues et fédérations, c'est seulement certaines personnes, notamment le service juridique ou le service billetterie, ce qui se comprend, parce que par exemple, si le club se qualifie en finale de Coupe de France et qu'une partie de la billetterie est gérée par la Fédé ou le trophée des champions par la Ligue, c'est normal que les services billetterie ou juridiques puissent s'assurer qu'une personne interdite par le club ne rentre pas dans le stade. Mais ça n'a absolument pas vocation à être transmise à la commission de discipline, dont aucun membre d'ailleurs n'est un salarié de la Ligue ou de la Fédération française. Donc c'est un abus caractérisé. Et un autre abus caractérisé, et qui montre bien cette dimension vengeresse qui n'est pas du tout dans l'office disciplinaire, parce que rappelons que la commission de discipline ne peut sanctionner que les clubs, pas les supporters, c'est qu'il est écrit que si le FC Nantes permet aux supporters qui sont abonnés dans la tribune noire d'être replacés dans une autre tribune pour les deux matchs où il y a une fermeture partielle, le club du FC Nantes sera sanctionné. C'est grotesque. C'est-à-dire que si jamais dans les conditions générales de vente d'un club, il y a marqué que lorsqu'une tribune est fermée, il y a une obligation de remplacement, la commission de discipline n'a absolument pas le droit de s'opposer à cette liberté contractuelle des parties. C'est pas son office. Et plus largement, si un supporter qui est un abonnement à Tribune Loire décide de racheter une place en Erdre ou ailleurs, la commission de discipline n'a pas le droit d'interdire au club, de forcer le club à interdire ce supporter d'accéder à une autre tribune, et elle peut pas sanctionner le club parce que ce supporter a légalement acheté un billet dans une autre tribune. Donc on est dans un monde un peu paranormal où la commission de discipline se comporte vraiment comme un justicier dictateur qui a décidé qu'il fallait impérativement punir les supporters et c'est pas punir.
Et les punir collectivement, Pierre Barthélémy, parce que la suite de votre propos, c'est aussi de dire toutes les personnes, tous les supporters qui sont dans cette tribune noire sont tous sanctionnés, même ceux qui n'ont pas de fumigène ou craqué de fumigène. Encore plus généralement sur une sanction sur l'ensemble du stade. Quelle est l'idée derrière on l'évoquait tout à l'heure. Est-ce que c'est pas aussi de monter les supporters les uns contre les autres? On condamne le club, mais on entend des discours de supporters qui commencent à s'en prendre aux ultras, à l'utilisation des fumigènes, parce que vous punissez tout le monde. Il y a aussi une volonté stratégique derrière. Non,
je pense pas, parce que si c'est ça, c'est un échec, hein, parce que globalement dans l'histoire on a toujours constaté que lorsqu'il y avait cette stratégie d'essayer de diviser les supporters pour mieux régner, et au final il y avait une union qui se renforçait des supporters contre la répression. Le plan Le Prou, c'est un bon exemple à Paris, hein, où c'était un peu la stratégie au début, et à la fin c'est tout le stade, tous ceux que le club, la préfecture avait essayé d'opposer aux ultras, qui ont demandé le retour des ultras. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas vraiment, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a...
Ce sont des choses qu'on a quand même entendues, hein, et qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux de supporters nantais qui reprochent aux ultras leur utilisation des fumigènes.
Oui, évidemment, il y a toujours un pourcentage de personnes qui va tenir ce discours-là, mais souvent, c'est des personnes qui étaient déjà préalablement pas favorables au mouvement ultra ou à ce type d'animation. Mais c'est sûr, oui, évidemment, personne ne parle d'une voix, et c'est justement ce qu'on reproche aussi à la commission de discipline, qui est de considérer que si on est abonné en tribune noire, on est forcément complice ou impliqué dans l'allumage d'un fumigène. Donc il y a effectivement cette...
Sur cette notion de sanction collective, elle est légale, c'est possible de faire ça? Moi, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment on peut être condamné pour quelque chose qu'on n'a pas fait.
C'est tout le détournement de procédure, de pouvoir qui est opéré par la commission de discipline. C'est-à-dire que juridiquement, elle a le droit de sanctionner le club. Et parmi les sanctions qu'on peut prendre comme un club, il y a celle de fermer son stade. Mais le but, quand on prend cette décision contre un club, c'est de lui porter une sanction à la fois économique, puisqu'il perd toutes les recettes du match, et sportive, dans le sens où on le prive du soutien de son équipe et de l'avantage de jouer à domicile. Mais dans l'esprit de la commission de discipline, aujourd'hui, c'est utilisé comme un moyen de sanction collective. Et d'ailleurs, c'est assumé en tant que tel par la commission de discipline, par son président, qui le revendique, hein, devant l'Assemblée nationale. Et en 2020, il a assumé que pour lui, les sanctions collectives étaient le pilier. Et il y a même eu un communiqué une année de la Ligue de football professionnel qui s'appelait « On soutient les sanctions collectives et c'est le pilier de notre action disciplinaire ». Donc, c'est une volonté assumée de sanctionner les supporters collectivement à travers le club.
Pierre Barthélémy, est-ce que concernant l'usage des fumigènes, la législation est susceptible d'évoluer? On sait qu'il existe des instances de dialogue. Est-ce que vous avez le sentiment que certains élus s'emparent du sujet?
Il y a de plus en plus de gens qui travaillent pour la légalisation de la pyrotechnie. Il y a des pays où ça se fait dans un certain cadre. Là, je sais que depuis ce week-end, la fédération norvégienne a commencé le dialogue avec le gouvernement norvégien pour légaliser la pyrotechnie. En France, il y a une expérimentation qui a été initiée il y a bientôt 2 ans et qui doit prendre fin, je crois, à l'été 2025, oui, c'est ça, et qui permet, une fois qu'on a déposé un dossier validé en préfecture, de craquer de la pyrotechnie illégale et qui pourrait avoir de l'avenir et qui pourrait séduire des groupes en France, mais qui aujourd'hui fait l'objet d'un blocage dans la plupart des groupes, justement à cause de la répression collective et des sanctions collectives en matière de pyrotechnie, parce que les supporters ont constaté que au final, quand aujourd'hui il y a un dossier par un club pour un craquage, on peut avoir 150-200 torches, qu'on peut les craquer globalement comme on les craque dans un craquage sauvage. Et sauf que quand il n'y a pas ce tampon de la préfecture, il y a des sanctions très très lourdes, qu'elles soient pénales, civiles ou huis clos, au motif que la pyrotechnie serait très très dangereuse, que la fumée serait toxique, que celui qui l'utilise a besoin d'avoir des gants, des lunettes, etc. Sauf que quand c'est autorisé par la préfecture, ce danger disparaît, la fumée n'est plus toxique, c'est pas très grave si on est dans un stade, et il n'y a plus besoin de gants ou de lunettes. Donc en fait, c'est cette hypocrisie, ce décalage total entre le fait qu'un craquage, lorsqu'il y a un tampon de la préfecture qui dit « Ok, on bat du document », et un craquage où il n'y a pas de tampon, on a du tout au tout l'incident le plus grave et le plus dangereux de l'année avec des sanctions très lourdes, ou quelque chose de magnifique qu'on peut exploiter et mettre dans toutes les vidéos et se féliciter de cette animation pyrotechnique. Donc cette hypocrisie-là, aujourd'hui, c'est le point de blocage principal sur, j'ai envie de dire, une pérennisation de l'expérimentation dans le droit français.
Ouais, parce que si on revient à l'origine, on interdit parce que c'est dangereux. Il y a une dangerosité du fumigène. Combien d'incidents est-ce que la dangerosité est avérée? Est-ce qu'elle est limitée? Parce que sinon, effectivement, rien ne justifie cette interdiction. Est-ce qu'on a des exemples, une comptabilité qui est faite par rapport au nombre de fumigènes craqués, des incidents, des accidents?
Alors, je ne sais pas s'il existe une comptabilité, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un risque, qui est double, déjà parce que certains les utilisent mal, les fumigènes, et je pense notamment à ceux qui les lancent, ce qui est très grave, très dangereux, c'est un très très gros problème. Et il y a aussi le fait que dans la loi, on parle d'engins pyrotechniques, et les engins pyrotechniques, c'est pas que les torches ou les stroboscopes. Malheureusement, il y a de plus en plus la mode des feux d'artifice, qui sont très dangereux quand c'est pas bien organisé. Et il y a aussi tout ce qui est engin détonant, c'est-à-dire les bombes agricoles, les pétards, qui sont extrêmement dangereux, et c'est ça qui a causé les quelques graves blessures qu'on a connues depuis 30 ans dans les stades. On se souvient du pompier à Nice, mais c'était pas le seul avec ces objets qui explosent. Donc il y a la question de la sécurité, de la dangerosité, c'est un vrai sujet. Mais c'est parce qu'on n'a jamais pris le temps de faire le tri entre le type d'engin et la manière de les utiliser. Donc c'est là qu'il y a une vraie piste de travail. Après, au niveau des blessures, des incidents qui ont été constatés, ils sont très très rares. Hein. Je crois que quand il y avait un contentieux entre l'Association nationale des supporters et la LFP sur la dangerosité de la pyrotechnie, la LFP avait pu trouver que 4 exemples en 30 ans, dont un qui était un pétard, un qui était au football amateur où un supporter avait tendu le fumigène sur le toit du stade, qui avait fait brûler le toit du stade évidemment. Et deux autres cas, je crois, un supporter qui a vu son manteau brûler et le quatrième, je ne me souviens plus. Mais qui montre que c'est assez dérisoire, puisque la Ligue compte plus de 6000 fumigènes par an, mais comme je dis, c'est beaucoup plus, hein, parce que les délégués ne peuvent pas tout compter. Et dans le rapport parlementaire de Sacha Houlier et Marie-Georges Buffet de mai 2020, il est écrit qu'ils ont interrogé les clubs et que sur les dernières années, aucun club n'a rapporté de blessure.
Comment se situe la commission de discipline française par rapport à ses voisins européens? On a l'exemple, nous, à Nantes, en Ligue Europa, au niveau UEFA. La Beaujoire avait été sanctionnée après des feux d'artifice justement contre Karabagh et le huis clos prononcé contre la Beaujoire pour le 16e de finale contre la Juventus de Turin avait été ramené à un simple sursis et un match à huis clos en cas de récidive. Comment ça se passe en France par rapport à l'UEFA et au reste des pays européens?
Alors c'est un sujet sur lequel d'autres personnes seraient plus expertes que moi, mais de ce que je comprends, de ce que j'ai pu discuter avec certains supporters à l'étranger et avec Football Supporters Europe, c'est que globalement les sanctions collectives, c'est dans les proportions qu'on connaît, c'est que la France. L'UEFA, c'est dans une certaine mesure, mais en général c'est quand c'est vraiment allé très très loin et avec de multiples récidives. Par exemple, quand il y a eu d'incidents très graves à Marseille-Francfort avec un tir de mortier qui était parti je crois du virage nord et qui avait atteint un supporter allemand à la carotide, un tir de mortier, hein. On parle vraiment de quelque chose d'extrêmement dangereux. Ça, c'est des situations dans lesquelles l'UEFA n'hésite pas à fermer une partie d'un stade. À l'étranger, c'est très très rare. Je crois que l'Espagne commence tout juste à s'y mettre en matière de racisme. En Angleterre, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. En Italie, je ne crois pas que ça soit à titre disciplinaire. Je crois que c'est souvent des décisions des autorités publiques, mais pour d'autres motifs. En Allemagne, ils ont arrêté. Je crois qu'il y avait un moratoire en 2017, je crois, sur les sanctions collectives. Donc c'est
une spécificité française
dans l'étendue, oui, parce qu'en France, je pense qu'on est à plus de 30 par saison maintenant, en 8 totaux ou partiels.
Et si on vous suit, comme on vous écoute depuis le début, on a le sentiment qu'il y a une dérive un peu autoritaire de cette commission de discipline et qu'elle n'a pas de contre-pouvoir. Alors je sais qu'il y a eu un mouvement des supporters qui avait demandé, qui avait fait un appel à réformer cette commission de discipline-là.
Toujours en cours, hein, Jean-Marcel, il y a des banderoles encore actuellement.
Et en fait, la Ligue, est-ce qu'elle n'a pas aussi un double jeu? Parce qu'on a le sentiment qu'elle se tire une balle dans le... C'est-à-dire que les clubs, lorsqu'ils sont pointés du droit, comme c'était le cas à Nantes, poussent des cris d'orfraie face à la commission de discipline. Et en même temps, il n'y a rien qui a été mis en place aujourd'hui pour freiner, on va dire, sa course en avant, sa fuite en avant.
C'est compliqué à dire. Je pense qu'à la Ligue, il y a des gens qui sont pro-pyrotechnie, des gens qui sont contre. Déjà, donc c'est compliqué de généraliser sur la Ligue. J'ai tendance à penser que ceux qui travaillent au service marketing, vidéo, etc., ils sont plus jeunes, plus attachés à cette ambiance-là. et que ceux qui sont à la direction des compétitions sont peut-être des gens qui allaient au stade ou qui, durant leur jeunesse, ne connaissaient pas la pyrotechnie, puisque c'est quand même quelque chose qui s'est beaucoup développé depuis 15-20 ans. C'est pas quelque chose qui était aussi répandu avant.
C'est ce qui veut dire que la commission de discipline, elle est souveraine de manière pleine et entière, et que personne aujourd'hui, en tous les cas, telle qu'elle existe là, elle a tout pouvoir.
Oui et non. Elle a tout pouvoir dans le respect des règlements. Nous, on estime qu'elle ne les respecte pas. Mais malheureusement, les clubs ne vont jamais au tribunal administratif contre les décisions de la commission de discipline, ce qui lui donne un peu des ailes. Et non dans le sens où les clubs peuvent, puisque c'est eux qui sont majoritaires au conseil d'administration de la Ligue, réformer la commission de discipline, que ce soit le règlement disciplinaire sur comment elle se saisit, de quel fait elle se saisit, quelles sanctions elle peut prendre, que ce soit les modalités de nomination de ses membres, que ce soit la durée des mandats, la façon dont la procédure disciplinaire fonctionne, etc. Tout ça, c'est à la main des clubs. Donc je pense que si les clubs un jour décident de prendre le sujet à bras-le-corps, que ce soit en allant contester les décisions quand elles sont illégales ou en s'attelant à réformer le fonctionnement de la commission de discipline, ça pourra changer. Mais effectivement, tant que les clubs ne font rien et qu'il y a un règlement très permissif et qu'il n'y a pas de contrôle mené, en plus les clubs ne vont jamais faire appel devant la commission supérieure de la FFF parce que je crois qu'elle aura plus ou moins fait passer le message qu'elle ne ferait qu'alourdir les sanctions.
Selon vous, là on pose depuis tout à l'heure un constat de ce qu'est la commission de discipline aujourd'hui, de ce qu'est la situation en France, mais comment améliorer la situation aujourd'hui? Comment encadrer cette pyrotechnie? Comment identifier les fauteurs de troubles? On sait aussi que c'est difficile, que les supporters sont cagoulés. Comment faire aujourd'hui pour améliorer la situation? Là on fait un constat, très bien. Comment on l'améliore? Comment on essaie de redresser la pente?
Je pense qu'il faut que chacun reste à sa place. C'est-à-dire qu'il faut que la commission de discipline elle se borne à sanctionner les manquements des clubs. Donc un club qui n'a pas fait de palpation, qui n'a rien fait pour empêcher l'entrée des fumigènes, qu'on le sanctionne, même lourdement, je peux le comprendre, mais un club qui a fait son maximum, la commission de discipline, elle doit le prendre en compte et elle ne doit pas s'acharner. C'est le travail de la police et de la justice. Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits ou corps sociaux où on accepterait que la police et la justice, considérant que les délits sont anodins et ne posent pas de problème, ne fassent rien et qu'ensuite, ça soit un organe qui décide que l'entreprise doit absolument sanctionner ses clients et que si l'entreprise ne sanctionne pas ses clients, on pénalisera l'entreprise. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres illustrations de ce comportement-là. Donc la première chose, c'est déjà qu'on laisse la police et la justice s'occuper de sanctionner les délits, que la commission de discipline ne se borne à ne sanctionner que les manquements des clubs. C'est le premier point. Et le deuxième, je pense, c'est que il y aura un dialogue dessous et on n'avancera pas, notamment sur l'expérimentation de la pyrotechnie, tant qu'on sera dans ce cercle autodestructeur de l'inflation des sanctions et des huis clos et des sanctions collectives. Parce que c'est ça qui cristallise les sanctions, c'est ça qui a transformé plus que jamais la pyrotechnie en un élément contestataire, même si pour Nantes Strasbourg, je le rappelle, c'était un anniversaire, c'est un événement festif. Mais il y a d'autres situations où c'est contestataire, notamment quand il y a eu des banderoles pour demander la réforme de la commission de discipline et qu'il y avait la pyrotechnie autour. C'était évidemment contestataire. Et donc, tant qu'on fera pas, on n'aura pas cette phase d'apaisement, et je pense que le moratoire sur les sanctions collectives, comme il était intervenu en Allemagne, c'est la bonne solution, on n'avancera pas. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'intelligence des deux côtés, et pour l'instant, c'est pas la bonne dynamique.
Et pardon pour cette question, vous êtes peut-être pas la personne idoine pour y répondre, mais est-ce que tout simplement les supporters, enfin ceux qui font usage d'engins pyrotechnie peuvent arrêter aussi? Il y a des gens aussi qui viennent au stade pour voir des joueurs de foot et pas nécessairement un spectacle comme on peut entendre, un spectacle de pyrotechnie. Est-ce que les supporters peuvent aussi se remettre en question et les ultras notamment?
Honnêtement, je pense pas.
Ça fait partie de la culture, de leur culture en fait, c'est ça?
En fait, il y a différents sujets. C'est-à-dire que est-ce qu'il pourrait y avoir une prise de conscience pour mettre fin clairement à ce qui est dangereux, les pétards, les feux d'artifice, les jets de fumigène sur le parcage adverse, etc. Ça, oui, je l'appelle de mes voeux, il faut arrêter, parce qu'en plus, c'est ça qui donne du carburant aux opposants à la pyrotechnie. En revanche, est-ce qu'il faut s'amputer d'une partie de la culture qui est le fumigène en tant qu'élément d'animation visuelle? Je pense pas. J'ai trois jeunes enfants. Ce qu'ils ont préféré au stade les premières fois qu'ils sont venus, c'est la pyrotechnie. Et c'est quelque chose qu'ils adorent. Moi, j'adore aussi le voir. Je suis pas certain que la pyrotechnie est utilisée de manière festive et je vais pas dire sécurisée parce que c'est jamais sécurisé à 100%, mais de manière responsable. Je suis pas certain que ça soit la priorité de le supprimer des stades. Et ça, il y a des tifos d'ailleurs qui sont beaucoup plus beaux parce que ils sont assemblée avec de la pyrotechnie pour éclairer certaines parties de tard. Enfin, il y a des choses très intéressantes dans la pyrotechnie. Et d'ailleurs, les spectacles pyrotechniques en tant que tels sont quelque chose d'utilisé dans les stades hein, par la Ligue, avec des dispositifs qui sont au bord de pelouse ou des feux d'artifice après une finale, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit le principe même de la pyrotechnie, c'est les modalités. Et effectivement, côté des supporters, je pense qu'il y a urgence à se positionner fermement contre ce qui est pétard, ce qui est feu d'artifice ou ce qui est transformation de la pyrotechnie en projectile ou en arme.
Merci beaucoup Pierre Barthélémy d'être venu échanger avec nous, notamment sur les fondements juridiques des décisions de la commission de discipline et puis sur l'idée qu'elle doit être réformée. On va poursuivre entre nous les débats. Merci Pierre Barthélémy.
Merci beaucoup.
Vous en prie. Au revoir.
Au revoir.
Messieurs, réaction à ce que vient de nous dire l'avocat des supporters.
Ben c'est le constat qu'on a pu faire depuis longtemps. En fait, c'est ce qu'on déplore depuis un certain nombre d'années en travaillant le dossier sur la par rapport à la sanction qu'a écopée le FC Nantes. J'ai retrouvé des papiers dans l'équipe de 2018 avec un titre pas de fumée sans feu, c'est-à-dire qu'on s'alarmait déjà de la recrudescence des fumées dans le stade et puis en tous les cas, comme l'a dit Pierre Barthélémy, sur plusieurs moyens dont ils pouvaient être utilisés, à la fois pour des moyens festifs, à la fois pour les moyens de contestation et parfois dont l'usage pouvait être détourné et devenait dangereux. Donc en fait, cette question-là, elle est sur la table depuis 6 ans et en fait, non seulement on n'a pas avancé, mais on a plutôt régressé, on est parti dans un forme de bras de fer comme ça, sur lequel on voit aucune issue, jusqu'où c'est comme si on créait, en tous les cas pour moi, les conditions d'un dérapage demain.
Oui, ben non, mais j'ai utilisé le mot pendant l'interview. On a vraiment l'impression en l'écoutant que on est dans une impasse et que la saison prochaine il y aura peut-être encore 4, 5, 8 clos si les ultras nantais continuent à faire usage de.
Les ultras nantais.
Des supporters, c'est quand même souvent les ultras. Voilà.
Ou si la commission de discipline ne revoit pas justement ses critères.
Mais elle n'a pas l'air de vouloir beaucoup bouger là-dessus. Donc
sauf que la commission de discipline, moi ce qui me heurte, c'est qu'elle est en contradiction avec la propre expérimentation que la Ligue a lancée sous l'égide du ministère des Sports, avec en tous les cas l'aval suite au rapport Sacha Houillet de 2020. C'est-à-dire qu'il y a une expérimentation qui a été lancée, et Pierre Barthélémy en a fait allusion il y a 2 ans, qui doit se terminer. En 2025, qui était sans doute imparfaite. D'ailleurs, elle n'a pas malheureusement tout séduit. Elle a représenté à peu près, je crois, la saison dernière, à peu près 10% des torches craquées.
Parce qu'il y avait aussi quelque chose qui correspond pas à la réalité d'un match.
De souplesse, c'est-à-dire qu'on demandait de les faire qu'au premier rang. On ne pouvait pas le faire à l'intérieur d'une tribune. Il y avait un autre manque de souplesse, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le faire pendant le match, c'était avant ou à la mi-temps ou après le match.
Et pas pendant un but,
On l'avait dit quand l'expérimentation a été lancée que c'était inapplicable, en fait.
En tous les cas, si, il y a eu à peu près une quinzaine de clubs, je crois, qui l'ont souhaité, via leurs supporters, pour une trentaine de fois. Donc ça a fonctionné, sauf là, aujourd'hui, on en a tiré les conclusions. Donc c'est quoi l'étape d'après ? C'est qu'on sait ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc la logique voudrait qu'après l'expérimentation, disent on va plus loin, on donne un peu plus de latitude pendant le match dans la tribune, quitte à toujours évidemment encadrer sur le déclaratif, mais pour ça évidemment faut pas rentrer sur une guerre à côté et une surenchère de l'autre.
Moi j'ai eu des réponses aussi sur la dangerosité quand même, parce que c'est la base du pourquoi, du comment on interdit quelque chose. Il y en a combien de milliers de fumigènes craqués, c'est 6 000, mais il dit c'est 20 000, et en 700, fait en
700
réalité.
Du côté de Nantes cette saison,
voilà, c'est beaucoup et très très peu de cas d'incidents. Forcément ça peut brûler, je ne dis pas le contraire, mais est-ce que ça mérite une telle répression par rapport à la faiblesse du nombre?
Ce qui est dangereux, on peut l'encadrer aussi.
Loïc. Oui, il rappelait tout simplement que la pyrotechnie, moi, elle me semble indispensable, mais effectivement, il faut la contrôler et il ne faut pas s'en servir de projectiles. Je parle des fumigènes. Moi, je suis contre les bombes agricoles, pour le spectacle. Ça fait partie de la culture des gens qui sont
à Saint-Étienne. Qui animent bien passé pour savoir. Il n'y en avait pas samedi après-midi. C'était très bien, les tifos.
C'était les 90 ans du club. C'était pas l'anniversaire des groupes de supporters.
C'était sympa le spectacle. Moi, j'ai regardé.
Ils savent aussi que. Ils sont plus qu'en sursis et qu'ils risquent très fortement.
Les Nantais
le
savaient aussi.
Un spectacle, un tifo peut être magnifique sans fumigène aussi, David. Ouais. La question,
mais je suis bien d'accord. Hein.
Mais oui.
Non, mais regarde
aussi.
David, toi qui suis la voile, c'est même une culture de la voile où on voit chaque vainqueur d'arriver d'une solitaire ou tout ça.
On parle pas de la même chose là.
Est-ce qu'ils ont été formés en fumigène?
Fumigène ou deux. Parle de 280.
Mais non, mais t'es en train de caricaturer mon propos. Je te dis juste que ça fait partir de la culture d'un moment et depuis ça fait 40 ans que dans les stades de foot, en tous les cas, ça peut être choqué.
t'en, 40 t'en ans. T'en as au basket, c'est... en Turquie, en Grèce.
Ouais, ouais, dans non, les salles. C'est une culture d'animation et elle fait partie intégrante pour moi du football, tout simplement.
Mais quelque part, moi, c'est dans ce débat-là, c'est un peu là l'hypocrisie que je vois et la limite que je vois. C'est qu'on... Évidemment, les fumigènes comme animation, comme fête, je trouve ça très chouette. Ça fait partie de la culture foot. Et effectivement, comme disait Pierre Barthélémy, les gens viennent au stade pour voir ça aussi. Et s'enchante de voir...
Pas tous,
mais, bah, c'est,
pas tous.
La...
Non, pas tous.
Alors,
je pense
d'ailleurs, si. Alors,
non, mais pas tous. Que... Mais,
pardon, je
David représente je ceux qui...
Non, mais j'ai rien contre ça. Mais il y a un moment, vu ce qui se passe...
Non, je suis au bout de mon propos. C'est les fumigènes, pour, je vais dire, une majorité, sont une fête. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a aussi les fumigènes utilisés comme contestation. Et dans la mesure, en plus, où c'est réprimé de manière forte, c'est utilisé par les supporters, notamment à Nantes,
oui,
aussi pour embêter la direction. Enfin, voilà. Moi, les 25 ans de la Brigade Loire, évidemment, tu as 280 fumigènes. C'est très chouette. Ils fêtent leur anniversaire. C'est le 25 ans. C'est un groupe ultra. OK, ils font la fête. Mais... ils pètent des fumigènes à chaque match pour faire la fête, pour l'animation. Et ils savent aussi que Valdemar Quitta va payer une amende à chaque fois. Et ça sert aussi de contestation.
C'est ça, il a très bien expliqué.
Voilà, il faut, et en fait, toute l'hypocrisie, elle est là. C'est que, oui, il y a la fête, mais c'est aujourd'hui servi comme une arme. Alors, le terme n'est pas bien choisi, mais comme un argument de oui, contestation. Mais... Et ça pose problème.
Mais
et
comme, des chants, comme des chants, comme des banderoles, comme tous les moyens d'expression pour contester. Mais quand il nous dit que s'il y avait eu des chants racistes dans la tribune...
Ça, c'est choquant.
Ben oui, mais c'est-à-dire qu'on est en train de parler de fumigènes au même niveau que des chants racistes. C'est qu'on est devenu fou sur la question des fumigènes quand même. Il y a une espèce de folie qui s'est emparée de cette instance.
Il y a eu des dérives avec les fumigènes, ce qui s'est passé à Saint-Étienne lors du barrage.
Je crois que Pierre Barthélémy a été clair là-dessus, c'est-à-dire qu'il demande au groupe de prendre leur distance et de condamner le détournement. Et je l'ai dit au début,
David, c'est la ligne rouge.
Bah, exact. Oui.
Je veux dire, il faut pas qu'elle soit franchie.
On ne peut pas s'en servir de projectile. Encore une fois, ça ne peut pas porter atteinte à la sécurité du public, au déroulement du jeu.
Non, mais à
Nantes, sur la sanction, si on parle de la sanction de Nantes,
ça a été interrompu quand même 2 ou 3 fois.
Nantes n'a pas été sanctionné pour des problèmes de sécurité.
Non.
Et d'ailleurs, Valdemar Quitta l'a dit lui-même dans un entretien chez nos confrères d'Europe 1, que c'est pas pour un défaut de sécurité qu'il a été sanctionné.
Oui, non, je parle de comment on utilise les fumigènes. On parlait de ça.
Ah non, mais là, on est sur un détournement de quelque chose. On va pas condamner des choses qui peuvent être très bien faites. Parce qu'on subodore qu'elles peuvent être détournées.
Sinon, on ne met plus personne dans les stades, parce que potentiellement, il peut y avoir des chants racistes.
Éventuellement, il peut même y avoir des mouvements de foule dans un stade. Donc, on évite ça. Mais après, justement, la manière de contrôler ça, c'est que, enfin, là-dessus, je suis en totale adéquation avec ce qu'a dit Pierre Barthélémy. C'est peut-être aussi qu'à un moment, les groupes ultra condamnent et se responsabilisent, dans tous les cas, sur, pour éviter les débordements. D'une part, parce que, comme il l'a dit, ça donne, ce que tu viens de dire d'ailleurs, ça donne du carburant à ton discours, à ton alimentation, c'est-à-dire que parce qu'il y a eu un incident ou un débordement, on va arrêter le reste, ce qui est à usage festif et récréatif. Et ce qui est à usage festif, ce qui est intéressant, moi j'étais sur les matchs des deux derniers matchs des Bleus, aujourd'hui ces éléments-là, et c'était même le cas à la Coupe du Monde au Qatar, sont repris par les organisateurs de matchs sur des fédérations internationales sur l'avant-match. C'est-à-dire que vous avez des...
La pyrotechnie.
La pyrotechnie bien tout sûr. Autour du stade,
partout.
Avec
des
gerbes de feu. Tout le monde le reprend et tout le monde ça trouve ça génial. Alors, comme
mais
quoi, ça fait
ça,
aussi
c'est
partie...
totalement encadré,
c'est
ça.
Du show.
Ça, c'est du show.
Ah, non, mais toi,
c'est
tu...
comme au Puy du Fou, oui. Quoi. C'est comme la cinécénie. C'est encadré, puisque je sais que
d'ailleurs, ça devrait être interdit au Puy du Fou.
Oui, mais sauf que David, tu dis que ça ne fait pas partie du spectacle. Je te dis qu'il y a une évolution, en tout cas, de la pyrotechnie qui fait aujourd'hui partie du spectacle du foot. La preuve, c'est que les instances elles-mêmes le récupèrent à leur compte sur des matchs.
Et oui, mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, tu as une sanction disproportionnée de choses qui sont encadrées et utilisées dans la promotion ailleurs. C'est ça le problème. Et c'est, en fait, dans la mesure où tu as ces sanctions fortes, ça t'amène cette contestation. Dans la mesure où tu as une opposition, à Nantes notamment, entre ton groupe ultra et ta direction... Tu sais que la direction sera sanctionnée si tu utilises des fumigènes, donc ils s'en donnent à cœur joie. Ça fait partie de leur poumon en plus, de leur cœur de métier. Donc voilà.
Est-ce que vous voulez ajouter un mot, messieurs, ou on en reste là? On a été déjà bien complet et bien long sur cette question de la pyrotechnie dans les stades.
Moi, le non, je sens que David Philippot a les yeux qui brûlent pour moi et ça m'embête.
Non, mais il est en train de d'apprécier les fumigènes au fil du temps.
Non. Non,
copie du fou,
non.
Il a dit. Moi, il y a juste un truc qui m'embête sur la.
Non, mais j'ai l'impression que vous verrez dans un an, même en Ligue 2, si Nantes est en Ligue 2, on aura ce débat. Donc, c'est sans fin. Voilà.
Le seul truc qui m'embête sur la pyrotechnie, c'est où. Tout ce qui se passe en tribune ou hors du terrain, c'est quand ça gêne le jeu et que le jeu doit être arrêté à cause de ça. Que ce soit.
Mais ça on l'a toujours dit ici, oui. Les uns les autres.
Non, mais je préfère
sacralisation du terrain, exactement. Des acteurs, on n'entre pas sur le terrain. Enfin, c'est. Voilà, non, exactement. Évidemment. Mais tout exactement. Objet qui est amené à être jeté sur une pelouse n'a pas.
Vous vous souvenez de la fois. Enfin, c'était quand, il y a deux ans ou pendant le Covid, je ne sais plus, ou lors d'un précédent huis clos à la Beaujoire ou d'une fermeture de tribune où il y avait des fumigènes qui étaient arrivés par parachute dans le rond central.
Oui, c'est vrai.
Après, moi, quand je vous entends dire, je crois que c'est même les enfants de Pierre Barthélémy qui viennent au stade quasiment que pour regarder un spectacle en tribune de pyrotechnie. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent aussi, même s'il n'y a pas du très beau football depuis quelques années à Nantes, qui viennent quand même pour voir un ballon sur une pelouse, quoi. C'est important, l'ambiance. Tu peux l'avoir sans fumigène. Moi,
tu t'es éclaté, toi, dimanche, non?
Non, mais c'était chiant, mais évidemment que c'était pénible.
Après,
hier, on avait un auditeur sur RMC qui a dit qu'il s'en foutait totalement de voir ou non de la pyrotechnie. Lui, il venait pour voir un match avec une ambiance sympa, des tifos, des banderoles, des encouragements. Mais je veux dire, c'est pas indispensable à un spectacle de football. Faut arrêter. Arrêtez de dire qu'on a l'impression, à vous écouter, que 90% des gens veulent absolument qu'il y ait un spectacle de pyrotechnie à chaque match.
Parce que
c'est toi qui l'as dit, d'ailleurs.
Non, mais tu sais qu'on peut renverser. C'est que ton point de vue, tu regardes ça en te demandant si c'est indispensable. Et moi, je me demande pourquoi on veut l'interdire. J'ai interrogé la dangerosité. Elle est quasiment résiduelle. Donc, on est plutôt dans autre chose de la part de cette commission de discipline. Tu compares avec des chants racistes. C'est comme si c'était devenu un truc incroyablement condamnable. J'interroge ça.
Non, c'est juste qu'on est dans l'éternel débat du est-ce qu'il faut respecter les règles, même si elles sont stupides ou disproportionnées.
C'est l'histoire des hommes de faire changer la société, à travers des combats, et c'est celui que mènent les groupes ultra, notamment sur ce sujet-là. On se retrouve la semaine prochaine, messieurs. Ah non, Jean-Marcel.
Et si.
Comme un avion sans ailes. Tu avais promis que tu nous le dirais avant la fin.
Je le dirai la semaine prochaine, parce qu'on a trop débordé déjà.
Il n'est pas là la semaine prochaine. T'es là la semaine prochaine?
Oui, je suis là la semaine prochaine. Escroc. C'est à Youth League.
Escroc. C'est pas dans 15 jours que tu viens, bien sûr.
Charlie Couture,
je viens quand on m'invite.
Ouais, en débrief.
Charlie Couture, c'est pas une anecdote qui concerne Vivassi, on est d'accord?
Non, du tout.
Allez, messieurs, merci. À bientôt.
Allez, à bientôt. Ciao, ciao.
Sans contrôle, le podcast 100% digital.
Proposé par les rédactions de Ouest France, Presse Océan et It West.